nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Vous attachez à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Pour la 7e journée du livre médical à l'Académie nationale de médecine, le 19 septembre 2009, Jacques Louis Binet, secrétaire perpétuel de cette Académie, à l'initiative de cette journée du livre, a choisi de faire la lumière sur trois handicaps, l'autisme, la maladie d'Alzheimer et la stérilité féminine. Jacques Louis Binet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Quelques chiffres en préambule pour débuter cette émission. L'autisme en France touche actuellement entre 80 000 et 100 000 personnes, dont 36 000 enfants. La maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, déclarée cause nationale par le président de la République Nicolas Sarkozy, touche environ 800 000 personnes. Et puis pour la stérilité féminine, elle est rare, mais elle reste toujours douloureuse. Pourquoi avoir fait le choix de mettre ces trois handicaps en avant, Jacques Louis Binet ?
Parce que deux correspondent à l'esprit de la journée du livre. L'esprit de la journée du livre, c'est de mettre en relation, de faire dialoguer une œuvre, une œuvre littéraire, une œuvre cinématographique, mais une œuvre, ce que je vais appeler une œuvre d'art, à propos d'une maladie et d'en parler aux médecins. Alors, pour l'autisme, bon, c'était le film de François Truffaut et c'est le film de Sandrine Bonner. Pour la maladie d'Alzheimer, c'est le texte, je ne sais pas s'il faut appeler ça un roman ou un journal, de Serge Resvani. Et pour la stérilité féminine, le thème a été adopté parce que l'Académie a beaucoup travaillé sur ce sujet et a publié un rapport qui, à mon avis, est un des meilleurs textes en littérature française sur ce thème. Voilà.
Venons-en tout de suite à l'autisme. Vous parliez donc du film de François Truffaut. C'est donc Jean Gruau, scénariste, qui va donc participer à la discussion lors de cette journée du livre médical. Et puis, il y a également Sandrine Bonner. Commençons par la comédienne Sandrine Bonner, qui a réalisé un documentaire sur sa sœur, intitulé « Elle s'appelle Sabine », film sorti le 30 janvier 2008. Un documentaire sur sa sœur atteinte de psychose infantile avec comportement autistique. Pour poursuivre, je vous propose d'écouter un extrait.
La violence qu'elle avait envers elle-même se reporte sur notre mère. Elle lui tire les cheveux et lui donne des coups de poing au visage. Elle détruit tout ce qui lui tient le plus à cœur et déchire les photos de nos voyages. Nous prenons la décision de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour avoir l'avis d'un médecin. Sabine est dans un premier temps internée pendant 15 jours. Elle prend un léger traitement et sort sans aucun diagnostic précis. Nous frappons à toutes les portes, mais faute de place, elle n'est acceptée nulle part. Sabine retourne à l'hôpital. Elle y reste. 5 ans.
Dans cet extrait, Jacques Louis Binet, on comprend à travers la voix de Sandrine Bonner que ce n'est pas vraiment un pamphlet sur l'hôpital, mais sur le manque de dispositifs pour accueillir les enfants et adultes, surtout autistes.
Oui, c'est un cri de douleur. C'est un cri de douleur qui est en plus dans le film souligné par le fait qu'on voit, la déformation de sa sœur. On la voit petite fille, on la voit jeune fille, très jolie, qui paraît très active. On la voit se baignant aux États-Unis. Et puis on la voit maintenant, et entre ces trois périodes, bien la période la plus longue a été, il faut bien le dire, l'hospitalisation. Donc c'est pas un assaut contre les médecins, c'est un cri d'horreur contre la maladie.
Pourquoi avoir fait appel à Sandrine Bonner pour parler de l'autisme, puisque finalement
elle traverse... Ah bah c'est elle qui a fait appel. Je trouve que le film est très douloureux pour le corps médical aussi, puisque quand même nous sommes plus ou moins interpellés, pour ne pas dire accusés, mais très beau. Et c'est ça, ces journées, on n'est pas là pour jouer au ballon, on est là pour dire un petit peu où en sont les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, il y a eu d'énormes progrès dans la connaissance de l'autisme, ce qui ne veut pas dire le traitement. C'est-à-dire qu'alors qu'il y a depuis très longtemps une bataille pour savoir le rôle de la famille, le rôle de l'entourage, et puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, données nouvelles fondamentales. Premièrement, on a trouvé des anomalies des gènes, donc ça n'a pas de rapport avec l'entourage, et a été observé des anomalies visuelles. Vous savez que l'imagerie médicale a fait des progrès tout à fait exceptionnels ces dernières années et a été présentée à l'Académie des images qui n'appartiennent qu'aux autistes. Et ça, je crois, je ne sais pas si c'est vraiment un encouragement pour les familles. Entre la cause d'une maladie et le traitement, la tuberculose, il a fallu 60 ans. Vous voyez, entre le gène et l'imagerie et le vrai traitement, ben, je ne sais pas combien de temps va s'écouler, mais quand même, on sort un peu du Moyen-Âge et du monde que fut longtemps le monde fermé de la psychanalyse sur ce sujet.
Il y a donc ce film, Elle s'appelle Sabine, donc film documentaire réalisé par Sandrine Bonner. Et puis il y a un autre film qui est donc celui de François Truffaut, L'enfant sauvage, scénario de Jean Gruau, qui participe à la discussion de cette journée du livre médical. Dans L'enfant sauvage, il ne s'agit plus d'un documentaire mais d'un film, hein, d'une fiction inspirée d'un fait réel, Victor de l'Aveyron, qui a été recueilli par Jean Itard et la gouvernante Madame Guérin. Alors de la même manière, je vous propose d'écouter un extrait où on entre dans la apprentissage de la langue, en tout cas, Monsieur Itard essaie de, professeur Itard essaie de le faire parler et essaie de lui faire dire le mot lait. Je vous propose de l'écouter.
Attendez, Madame Guérin, vous allez me demander du lait pour lui. Bien, Victor, bien.
Je voudrais du lait. Lait.
Voilà, Madame Guérin, voilà du lait. Non, Victor, non. Faut le demander. Non. Madame Guérin, je voudrais du lait.
Bien.
Merci, Madame Guérin.
Lait. 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 Lait.
Merci, lui, quand même.
On a bien entendu le miaulement hein, de cet enfant Victor.
Absolument. Et là, on voit le talent. Et alors, pourquoi nous avons pris ce film? D'abord parce que Jean Itard fait partie de l'histoire de l'Académie et de l'histoire de la psychiatrie. L'Académie a été créée en 1820. Il a été élu en 1821. C'est-à-dire la première génération d'académiciens qui n'était pas nommée par le roi. Puisque depuis une première génération, les académiciens s'élisent entre eux. Itard a été élu, il était médecin de l'Institut des Sourds-Muets, qui est toujours à Paris, et il a été élu en partie à cause du travail qu'il avait fait sur l'enfant de l'Aveyron. Alors, il avait contre lui le plus grand psychiatre de l'époque, qui était Pinel. Pinel, c'est celui qui avait libéré les fous et les folles à Bicêtre et à la Salpêtrière. Geste très symbolique, mais qui ne correspondait pas non plus à un traitement, puisqu'une fois qu'il n'avait plus de fer aux mains, le seul traitement quand ces sujets s'agitaient, c'était la camisole de force. C'était quand même un monde plus que carcéral. Enfin non, un monde carcéral, avec tout le côté. Et Pinel a vu le malade en même temps que Itard et a conclu que c'était ce qu'on appelait un idiot, qu'il fallait le remettre à Bicêtre et qu'il n'y avait rien à faire. Et la théorie, sans doute fausse d'ailleurs, de Itard, c'était ce mutisme, et on croyait aussi cette surdité, mais surtout ce mutisme, était lié au fait que dans la forêt, il n'avait jamais entendu, de sa naissance jusqu'à 7, 8, 9 ans, date à laquelle il a été trouvé, de voix humaine. Donc, c'était une sorte de retard, mais que peut-être on pouvait rattraper ce retard, peut-être on pouvait l'éduquer. Et c'est un geste très médical, ça. C'est une attitude très médicale, on ne connaît pas la cause, mais on s'énerve sur le traitement, on rééduque. Et le texte sur la rééducation et l'interprétation de Truffaut sont tout à fait exceptionnels. Et Truffaut est très en arrière de la main, il n'est pas du tout l'acteur. Il a le médecin consciencieux qui va dire il s'appelle Victor parce qu'il a dit « oh » quand il a vu de l'eau. Enfin, vous voyez, c'était... il lui redonne, c'est tout l'intérêt du film, par des exercices qui nous paraissent simples et qui sont compliqués, c'est d'apprendre à manger, d'apprendre à s'habiller, des bains chauds, il lui repermet de vivre, mais jamais cet enfant ne parlera. Et ça, c'est la conclusion du rapport d'Itard.
Cette journée du livre médical, donc on parle de trois handicaps, l'autisme, la maladie d'Alzheimer et la stérilité féminine. L'autisme, il y a de nombreux intervenants, citons quand même Thierry Ginest, fondateur de la Société internationale d'histoire, de la psychiatrie, de la psychanalyse. Oui, dites-moi.
Tant pis, j'en ai pris un peu trop parce qu'au fond, il y a deux parties. Il y a la partie historique, c'est la partie au cours du film de Truffaut, la partie d'Itard. Et vous voyez, deux écoles de psychiatres, les uns tout est le gène, les autres tout est le milieu. Et Itard, c'était le milieu. Cet enfant n'a pas entendu, donc il ne peut pas parler. Bon. Et puis, l'autre théorie, c'est que tout vient des gènes, et malheureusement, ce sont ceux qui ont raison. Mais Itard n'avait pas tort, dans la mesure où la rééducation, qui est horriblement difficile, à laquelle finalement se soumet l'enfant, montre son efficacité. Il écrit des textes au ministre de l'Intérieur pour essayer de donner un petit peu d'argent à la gouvernante, parce qu'il l'avait pris chez lui, Itard. Il avait pris cet enfant chez lui. Et tous les jours, une heure, deux heures de rééducation, de promenade, de vie. Et puis malheureusement, le but qui est la parole, on est resté au O et à deux voyelles. Et il n'a rien dit d'autre, mais il comprenait, il mettait à table, il faisait cuire des choses, il rangeait les affaires de la maison. Il avait une vie, je ne sais pas comment appeler ça, une vie subnormale, mais il n'était plus une bête. Parce que le début, et ça le film le montre très bien, c'était une bête à peine modifiée des bêtes qu'on rencontre dans une forêt.
Pour terminer, avant d'aborder le deuxième thème, je citais donc les intervenants, permettez-moi de les citer. Donc je disais Thierry Ginest, également Gilbert Lelore, correspondant de l'Académie nationale de médecine, auteur de l'exploration de l'autisme et de ma vie d'autiste.
Qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup lutté contre la théorie psychanalytique, car on a longtemps cru que c'était une maladie psychanalytique. Et il y a eu un Français qui a résisté, qui était un très bon médecin de Tours, mais il faut mieux venir d'Oxford que de Tours, et qui s'est battu contre le monde anglo-saxon.
Également Marie-Christine Mourin, professeure de pédopsychiatrie.
Alors, des praticiens qui vivent ça tous les jours. Et puis autour de la personnalité d'Itard, d'une part Gruau, et qui n'a pas connu Itard, mais qui l'a adapté au film. Et puis Thierry Ginès, parce que ce fameux monsieur Itard s'est devenu un chef d'école d'une certaine psychiatrie, donc il monte son poids et son influence contre Pinel. Il n'y avait rien à faire contre Pinel, c'est comme Napoléon. Bon, on n'obéissait pas. Eh bien, Itard n'a pas obéi.
Pour terminer, Nadia Chaban, également pédopsychiatre, François Lejean, otorhino-laryngologiste, correspondant également de l'Académie nationale de médecine, Francis Brunel, professeur de médecine à Paris 5, qui travaille à l'hôpital Necker, enfant malade.
Donc un mélange de médecins, d'historiens et de spécialistes de l'autisme.
Deuxième handicap abordé pour cette 7e journée du livre de l'Académie nationale de médecine, 7e journée du livre médical, la maladie d'Alzheimer. Je le disais au début d'émission, la maladie d'Alzheimer touche 800 000 personnes en France et un plan d'une durée de 5 ans a été mis en place, donc entre 2008 et 2012, qui représente un effort de 1,5 milliard d'euros. Pour aborder ce thème, vous avez décidé de mettre en avant le livre de Serge Rezvani, qu'on connaît plus peut-être pour ses peintures ou encore ses talents de parolier. Son livre s'appelle L'éclipse et il est paru en 2003. Il raconte la déclinaison rapide de sa femme, Lula, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pareil, de la même manière, pourquoi avoir pris ce livre parmi peut-être beaucoup d'autres?
Parce que c'est un merveilleux livre. Parce que c'est le livre d'un couple qui s'adorait et qui était un peu un symbole dans le cinéma français. Ils n'appelaient pas ça un couple, ils appelaient ça une fusion. Lui et Daniel, qui va porter dans les livres le nom de Lula, ne se quittaient pas. On allait chercher du lait ensemble. On allait acheter du pain ensemble. C'est la fusion totale, y compris dans le travail. Et il semble, ce que je ne savais pas du tout, que Lula écrivait et surtout que l'aidait pour ses textes et qu'elle peignait aussi. Donc un couple exemplaire, vivant assez pauvrement, ayant adopté comme lieu de vie une ferme dans les collines près de Saint-Tropez, celle qui s'appelle la Garde Fresnay, et brusquement, drame au sein de 40 vies communes apparaît l'Alzheimer. Et Rezvani, qui était à la fois d'abord un peintre, puis un écrivain, puis aussi un musicien, appelons ça par leur nom, c'est lui qui a composé les chansons pour Julie Jim, très, très lié à la Nouvelle Vague, a écrit là vraiment un livre déchirant, absolument déchirant, où, je vous lis simplement la première phrase, « Le 11 août 1999, à midi et demi, l'éclipse solaire a fait passer une vaste ombre sur l'Europe. » Son livre commence comme ça. C'est presque un livre d'espoir. Une éclipse, on s'en fiche. Une demi-heure après, on voit comme avant. Eh bien, malheureusement, dans son livre, la lumière sera de plus en plus sombre et ça devient dramatique. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'on y voit toutes les étapes de l'Alzheimer au sein d'un couple. D'abord, l'apparition des petits signes.
On essaie d'éluder les petits signes.
Ouais, Lula est toujours aussi belle, mais des petites erreurs. Elle fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle plaisante avec. Vous voyez, elle oublie des mots. Elle s'oublie elle-même.
Elle oublie
où elle est.
Elle oublie même qu'elle a la maladie d'Alzheimer.
Ah, complètement. Alors, première étape, qui est la révélation, le diagnostic. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est une charge médicale. Donc, c'est très bien dit dans le livre. Les médecins sont très maltraités parce qu'ils sont mal conduits dans le livre. Mais tant pis, ou tant mieux. Ça permet de faire mieux maintenant. Et tous les deux le devinent. Elle doit avoir un Alzheimer. Mais et quand ça tombe, alors là, il y a un double jeu tout à fait exceptionnel. Quand le diagnostic arrive, lui est effondré.
Il la prend par téléphone.
Voilà, et presque par hasard, il attend une lettre, il doit voir quelqu'un finalement, et on lui fait au téléphone une description abominable, en lui demandant où elle en est, est-ce qu'elle peut se lever le matin, est-ce qu'elle peut aller au cabinet toute seule. Enfin, vous voyez les détails les plus horribles qui soient. Et réaction des deux, d'abord lui dit bon, ben, j'ai compris ce qu'elle avait, et elle finalement fond dans ses bras. Et ça, je crois que c'est un des signes d'Alzheimer. C'est de temps en temps des montées en puissance de l'affection et cet espoir de lutte. Le médecin lui dit à elle, à Lula, à Daniel, que pour la traiter, il faut qu'elle écrive.
Qu'elle écrive son nom et qu'elle signe tous les jours.
Et alors là, il y a une scène superbe, c'est qu'ils achètent un carnet, qu'on appelle le carnet de Venise, et elle refusera d'écrire, elle ne pourra plus écrire. Et on voit dans le livre sa signature où elle a jusqu'à oublié son nom. Et ce qui est étonnant pour montrer l'aspect couple, y compris dans la maladie, c'est que lui reprend le carnet de Venise et que la plupart des textes que nous voyons là ont été écrits sur son carnet à elle, lui écrivant son journal tous les jours. Alors là, il y a une série de pages sur la force de l'écriture pour lutter contre la maladie. Ça, c'est passionnant, si vous voulez. Bon, ça ne lutte pas contre la maladie, ça lutte contre le mari dont la femme est atteinte par cette maladie. Mais que sa seule manière de se défendre, c'est d'écrire avec des règles très strictes, pas de romantisme, soyons très exacts, ça pourra peut-être servir aux autres. Et peut-être qu'au fond, ça pourrait dissoudre. Peut-être que le Alzheimer se dissoudra dans ce texte comme les gouttes qu'on lui donne quand elle est trop nerveuse. Le texte sur l'écriture, c'est en permanence un combat de lui contre l'horreur de la maladie, c'est-à-dire l'isolement, l'absence de reconnaissance, l'angoisse. Et puis, à la fin, il ne peut plus. C'est devenu indicible, ça ne peut plus se raconter, et il arrête son livre avant la mort. Qui est quand même. Et le livre sort, le livre est publié. Et puis elle meurt l'année d'après, ou la même année, je ne sais pas, et il écrit un post-scriptum qui est encore plus beau. Où il raconte la fin, il raconte qu'il était malheureux partout. Elle était dans le midi, il n'en pouvait plus, donc il y avait quelqu'un qui l'aidait. Il partait pour Paris. À Paris, il ne pensait qu'à elle là-bas. Et au fond, le seul lieu où il se sentait, je ne veux pas dire bien, mais pas trop mal, c'était l'avion. C'est-à-dire qu'il était...
Entre deux angoisses,
entre deux climats. Et ce qui est très beau, c'est qu'on reprend le thème de l'écriture. Et ça, je trouve que c'est très, très bien fait. Hein. C'est parfaitement fait. C'est un grand écrivain. Et que finalement, ce sont les textes qu'elle écrit avant la maladie qui terminent le livre. Vous voyez le relais. Lui a pris le relais quand elle ne pouvait plus le faire. Et elle, morte, c'est elle qui prend le relais quand elle pouvait encore le faire et qu'elle n'était pas malade. Le livre est super. Voilà.
Le neuropsychiatre que cite Serge Revzani parle de mort sans cadavre.
C'est ça, c'est un terme terrible. C'est-à-dire, et lui parle de l'âme neurovégétative qui seule persiste, etc. Mais ça signifie qu'il y a le grand trouble, c'est la perte totale de la mémoire. Elle ne reconnaît plus Serge Revzani, son mari. Elle ne reconnaît plus les lieux. Elle ne sait jamais où elle est. Elle veut toujours aller ailleurs. Et tout ça dans une angoisse, alors malheureusement indescriptible. Et je pense que dans l'écriture, il est arrivé à une qualité d'écriture. Et au moment où vraiment, il ne veut pas écrire comme un médecin, il sent qu'il va arriver à la description médicale, il s'arrête. Et c'est elle qui reprend dans le post-scriptum. Vous voyez, c'est un livre écrit à quatre mains. C'est un couple. Bon, lui a écrit une partie, mais elle reprend tout à la fin. Et je trouve que ce double jeu est admirable.
Venons-en à la troisième handicap, la stérilité féminine. Alors, vous avez choisi pour en parler de faire venir Valérie Gans, qui est donc romancière et a publié « L'enfant des nuages » en 2009 aux éditions Payot. Et qui là est un roman, bien sûr, et qui parle, vous me le disiez en préparant cette émission, de manière peut-être un peu plus légère, de la gestation pour autrui.
Parce que les livres sur la gestation pour autrui est un problème dont on discute beaucoup, et vous savez ce que c'est le fait qu'une femme va porter un enfant qui n'est pas le sien, et va le donner aux gens qui lui ont donné cet embryon. Bon, vous voyez les problèmes que ça pose. Bon, et l'Académie a voulu traiter ce sujet en sachant que... Alors d'abord, encore, je tiens beaucoup, moi, à ceux qui l'ont écrit. C'est un mélange, alors c'est l'objet d'un...
Vous parlez du rapport de l'Académie nationale de médecine.
Et c'est un mélange de gynécologues, de gens de droit, de pédiatres, tous de l'Académie. Il y a même une sénatrice qui fait partie aussi de l'Académie. Et ils ont tous des points de vue différents, mais ils ont su s'accorder pour essayer de savoir où on en était pour la gestation pour autrui. Et ce qu'ils font d'abord, c'est un bilan. D'abord, où peut-on pratiquer ce geste, qui est un geste très singulier? Eh bien, dans très peu de pays au monde. Comme vous le savez, en France, c'est totalement interdit. C'est aussi interdit en Allemagne, en Espagne, en Italie, le Portugal. La Méditerranée est tout à fait contre, sauf la Grèce. En Grèce, c'est permis, avec des lois assez singulières. En Angleterre. Et puis, il y a des pays où on ne dit rien. C'est pas mieux. C'est la Belgique, le Danemark. Et puis, c'est reconnu, c'est accepté. C'est pratiqué d'une façon légale, donc en Grèce, je vous l'ai dit, en Angleterre, d'une manière très surveillée, et aux États-Unis, dans quelques États, y compris la Californie. C'est assez bien de commencer pour montrer où ça se fait, où ça ne se fait pas. Alors, si on prend, revenons dans l'Hexagone, les exemples français, la plupart des enfants nés par cette méthode ont connu la gestation pour autrui aux États-Unis, en Californie. Problème, comme c'est interdit en France, ils n'ont pas de statut légal. Ils sont américains parce qu'ils sont nés dans une clinique américaine, mais en France, ils n'ont pas de statut. Et à peu près tous les livres sont des livres douloureux des parents qui ont des enfants normaux. Normaux. Bon. En plus, ces enfants portent leurs gènes. Il faut voir, là, ils portent leur gène, si vous voulez. Mais pendant la grossesse, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le relais. Et ces enfants, pour le moment en France, il y a procès contre procès sur procès, ces enfants n'ont pas de statut légal. Vous voyez la difficulté. Un couple de Français, leurs enfants sont américains. Ils ne peuvent pas être Français. Bon, compliqué, 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 compliqué. Alors, ce qu'a fait l'Académie devant ce problème compliqué, c'est de travailler sérieusement, c'est-à-dire de montrer les avantages et les inconvénients. Bon, et c'était pas très commode à faire, parce que quand c'est fait... Par exemple, aux États-Unis, l'affaire est donnée aux assureurs. Le problème des assureurs, c'est que ça se passe pas trop mal et de gagner de l'argent. C'est pas que de savoir s'il faut le faire ou pas le faire, c'est un peu différent, vous comprenez. Alors, l'Académie a essayé de retrouver les dossiers et a mis en balance les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est le dernier traitement de l'infertilité féminine pour une maladie très grave et très rare, heureusement, qui est l'absence d'utérus. Très souvent, cette absence d'utérus, c'est cette infertilité est très mal vécue. Et la seule solution, c'est d'adopter un enfant. Bon, quand on ne veut pas, et en France, ce n'est pas toujours très simple d'adopter un enfant, ben, il passe par, avec un grand sentiment d'injustice, ces femmes passent souvent par la gestation pour autrui, qui coûte cher, qui est réservée à un certain milieu. Il faut aller aux États-Unis, ça coûte de l'argent. Et encore, et une fois de plus, en France, impossibilité de les faire reconnaître. D'avoir un enfant qui n'est pas reconnu dans l'état civil, c'est horriblement difficile. Alors, c'est quand même ce qu'on va mettre dans le chapitre des avantages. C'est que ça donne une certaine paix à ces couples angoissés. Les inconvénients, c'est d'abord, en France, c'est interdit. C'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de commercialiser le corps humain. Et que, puisqu'on est obligé de payer la mère gestante, elle ne fait pas ça pour rien. Et c'est vrai que là, il y a un geste qui est compliqué, de payer quelqu'un pour ça. Quand vous donnez votre sang, vous n'êtes pas payé. On vous donne un petit sandwich, puis c'est tout. Vous voyez, c'est sûrement très, très, très douloureux. D'autre part, cette gestation pour autrui constitue un ébranlement de la valeur symbolique de la maternité. Ensuite, quels sont les risques physiques? Le risque psychique qu'on fait courir à l'enfant, je crois qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas très connu, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de statistiques. L'Angleterre a commencé il y a 4 ou 5 ans, alors on ne sait pas encore grand-chose. Voilà, donc avantages, inconvénients, et à mon avis, c'est un problème pour choisir, ce n'est pas au médecin à dire faut le faire ou pas le faire, c'est un problème de citoyen. C'est un problème de religion, c'est un problème de mentalité personnelle.
C'est un problème d'éthique surtout.
Comment ?
C'est un problème d'éthique. C'est pour ça que.
Exactement, totalement. C'est un problème très lourd, très difficile, qu'on ne peut pas traiter à la légère. Ce qui faisait peur à l'Académie, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui vont à l'étranger et qu'il faut quand même un jour statuer. Est-ce que l'Académie était contre ? Bon, moi je ne voulais pas qu'on vote, on est pour ou contre. Je voulais qu'on dise on ne sait pas. Pas notre boulot. On est médecin. On sait les avantages, on va étudier les inconvénients, et puis c'est pas à nous à choisir. L'Académie a pensé que ça ne pouvait pas être fait, et ça fait partie de la tradition éthique de l'Académie, ce qui est assez normal et ce qui était assez attendu aussi. Mais quand même, ce que nous pensons, c'est qu'un jour, il y aura une telle dérive en dehors de la France, c'est que ça ne fait pas partie des enjeux politiques. Paradoxalement, le Sénat, qui doit être plutôt de droite, était pour, et la Chambre, qui était plutôt de gauche, était contre. Pour vous montrer, mais ça, c'est intéressant. C'est que ça déborde complètement les passions politiques. Et parmi les gens qui soutiennent ou qui défendent, la femme de Jospin est tout à fait contre. C'est une très bonne philosophe. Et Madame Badinter, qui a beaucoup étudié qu'est-ce que c'est que la maternité, est tout à fait pour. Pour montrer que c'est très compliqué, très difficile, mais je pensais que ce n'est pas parce que c'était difficile qu'il ne fallait pas en parler, que ça faisait partie du travail de l'Académie.
La stérilité féminine, troisième handicap évoqué au cours de cette journée du livre médical, qui s'inscrit donc dans la droite ligne des états généraux de la bioéthique, qui se sont achevés.
Mais alors il semble bien, au stade où on en est, que la France n'est pas prête à accepter tout de suite. Alors ce que nous voulions dire, c'est le jour où ça sera accepté, ça ne sera fait que dans des éditions très particulières, avec une surveillance très singulière, pour surtout... Et de toute manière, ça sera fait pour très peu de gens.
Jacques Lubinet, rappelons pour nos éditeurs que cette journée du livre, elle est ouverte à tout le monde, elle est ouverte au public.
Vous êtes tous et toutes invités. Donc, ça a lieu le 19 septembre, toute
2009,
la journée, à l'Académie.
À l'Académie nationale de médecine, rue Bonaparte, à Paris. Que dire de plus que, bien sûr, Canal Académie retransmettra les meilleurs moments de ses interventions. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent partout en France et même ailleurs dans le monde, puisque nous retransmettrons ces interventions donc sur l'autisme, la maladie d'Alzheimer et la stérilité féminine. Merci Jacques Lubinet et puis donc à bientôt donc pour la retransmission.
Merci surtout de vous, de votre aide. Merci beaucoup.